cette série sur la guérison. Et c'est évidemment un thème pas simple à partager. Du coup, d'autant plus, je le fais avec crainte et tremblement, comme tous les messages d'ailleurs. Alors, je suis content de vous voir, en tout cas, vous voir nombreux ce matin. Et je me réjouis aussi de vivre ce temps où on aura aussi un temps de prière tout à l'heure. Donc oui, ce matin, on continue cette série « Jésus m'a guéri », je le disais la dernière fois, c'est le témoignage de beaucoup de gens, de milliers de personnes au temps de Jésus, mais c'est encore un témoignage qui est vrai aujourd'hui. Jésus m'a guéri, Jésus me guérit, Jésus guérit. Alors lors du premier message, on a mis en évidence que, en fait, Jésus veut toucher notre cœur. Jésus veut notre cœur. Il n'est pas premièrement là pour notre corps, mais il est là pour notre cœur. Il veut nous offrir le salut. Hein, c'est ce qu'il fait là, et c'est ça qui est important d'avoir en tête. La guérison est finalement le moyen par lequel il a manifesté sa gloire, sa toute-puissance, pour atteindre les cœurs. Mais il n'est pas mort sur une croix pour ton corps, qui est semé corruptible, mais qui ressuscitera incorruptible. Mais il n'est pas là pour ton corps, il est là pour ton cœur. Hein, c'est ça la première chose qui est importante. Donc il se révèle en vue du salut, et dans la poursuite de ce but, il a clairement envoyé ses disciples guérir des malades en son nom, par la puissance du Saint-Esprit. Donc le salut est un cadeau d'amour, c'est un cadeau de compassion, de grâce, et il contient la guérison. Je rajoute que tu ne peux pas mériter ta guérison, important, tu ne peux pas mériter ta guérison, tu n'as rien à faire si ce n'est de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a tout accompli, qu'il a vaincu la mort, il est le Tout-Puissant capable de te guérir encore aujourd'hui. Et puis, nous verrons dans les prochaines semaines, donc c'est un thème en quatre messages, le 16 mars, comment prier pour la guérison, donc on essaiera d'être pratique, on parlera aussi de l'imposition des mains, de l'onction d'huile, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une manière de faire finalement? On parlera ensuite le 13 avril de que penser des médecines parallèles. Vous savez qu'aujourd'hui, bon, on a eu Jacqueline Frézard au petit déjeuner des contacts, c'était très intéressant, mais c'est vrai, un peu un melting pot, il y a un mélange des fois, même les chrétiens, on est confus, on ne sait plus ce qui est juste ou pas. Donc on essaiera d'y voir un petit peu plus clair. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder donc les obstacles, et j'en ai marqué quatre. Ces obstacles qui peuvent s'ériger d'une telle manière en fait qu'on ne voit plus Christ, on ne voit plus la croix. Et peut-être qu'il y en a certainement un tas d'autres. Hein. Je ne pouvais pas faire 2 heures de message, vous comprenez bien. J'ai pensé à vous quand même. Et donc j'ai vu ces quatre, une mauvaise théologie, la méconnaissance de Christ, l'accoutumance, les déceptions passées. Et puis j'aimerais vraiment que voilà, on puisse tout à l'heure prier afin que, dans le nom de Jésus, ces obstacles tombent. Donc on y va, vous êtes prêts, vous êtes là. Magnifique, alors on y va avec ce premier obstacle, une mauvaise théologie. Et puis on va lire quelques versets dans Jean chapitre 9. C'est le récit de la guérison d'un aveugle. Puis le texte nous dit ceci, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui, hein, ou que les œuvres de Dieu soient manifestées. » Intéressant ce passage, parce qu'en fait, avant même qu'il se passe quelque chose, avant même que Jésus agisse, il y a une question là, « Qui a péché lui ou ses parents ?» Alors, on est ici dans un cas d'infirmité qu'on pourrait peut-être dissocier d'une maladie, mais la question des disciples est pertinente dans les deux cas. Donc, eux avaient une mauvaise théologie, mais une théologie qui était très répandue parmi les Juifs du 1er siècle et peut-être même jusqu'à nous aujourd'hui. Hein, tout malheur était une punition de Dieu pour un péché spécifique. Voilà, ça c'était leur théologie, c'était leur croyance. Donc, sans m'étendre là-dessus, la réponse de Jésus n'entre pas dans les deux possibilités suggérées par les disciples. Hein. Il lui donne deux choix, c'est lui ou ses parents. Non, Jésus n'entre pas là-dedans, il va répondre, et c'est une réponse pour nous encore aujourd'hui, afin que les œuvres de Dieu donc soient révélées en lui. Jésus a un but, Jésus veut toucher le cœur. Au travers de son œuvre, il veut le toucher lui. Alors, une mauvaise théologie, elle peut conduire à la culpabilité, elle peut même conduire à la honte. Et on entend encore des chrétiens dire, comme les disciples, « Ah, il est malade parce qu'il a du péché dans sa vie. » Et c'est une question qu'on se pose assez rapidement lorsqu'on tombe malade, même sans ces chrétiens qui vont dire ce genre de choses. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Ah, mais c'est peut-être à cause que j'ai du péché dans ma vie. Puis je vais prendre l'exemple de la pornographie. Ah ouais, c'est peut-être à cause que j'ai consommé de la pornographie, alors je suis tombé malade. Imaginez ça. Puis si la personne n'ose pas en parler, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va dire, en fait, c'est vrai, je mérite ma maladie. Je vais l'accepter, cette maladie, vu que je suis coupable, vu que c'est ma faute. Je peux juste vous dire que si la pornographie rendait malade physiquement, il y aurait peut-être 99% des hommes qui seraient malades. Il y a des conséquences à la pornographie qui sont autres que celles-ci, d'accord ? Mais une mauvaise théologie va amener la honte, va amener la culpabilité, elle va faire en fait obstacle à la guérison. Il ne voudrait pas guérir un pécheur tel que moi. Pourquoi il s'occuperait de moi ? Pourquoi il ferait ça pour moi alors que je suis comme ceci ou que j'ai fait ceci ou cela ? Pourtant, ce n'est pas ce qu'on voit dans la parole, mais ce sont des fausses vérités qui sont bien ancrées. Bien ancrées. Parlons donc rapidement de cette relation entre le péché et la maladie. Évidemment, le péché a sa place dans l'équation. Notre réalité, notre réalité sans Christ est celle-ci, Romains 3, 23, vous connaissez ce verset certainement par cœur. Tous ont péché, mais sont privés de la gloire de Dieu. Donc sa gloire, que l'on pourrait résumer par l'extraordinaire bonté de Dieu, elle se manifeste, entre autres, par la guérison. Et le péché nous a séparés de Dieu. Jésus vient avec cette mission de guérir nos cœurs. Il veut nous offrir le salut, et dans ce salut est compris le pardon pour nos péchés et la guérison. Donc, souvenez-vous que si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes pardonné, vous êtes sous son sang. Il vous voit pur en Jésus. Mais vous vous souvenez peut-être de ce passage avec le paralytique, ou la guérison du paralytique qui descend par le toit. Jésus va premièrement dire à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Puis ensuite, il va le guérir physiquement. D'accord ? Il y a un lien entre le péché et la guérison. Et de nouveau, le péché, le pardon du péché, c'est le salut. Et c'est ça que Dieu désire tout d'abord. Et puis dans Jacques 5, 14 à 16, on lit ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force, avec efficacité. » Donc là aussi, Jacques lit la guérison physique avec le pardon des péchés et il insiste sur la confession au verset 16. Mais mon envie et mon point, c'est vraiment celui-ci. Ta maladie n'est pas une punition que Dieu envoie à cause de ton péché ce matin. Et si ça, c'est une barrière, il faut qu'elle tombe. Il n'y a plus de condamnation, tu es pardonné. Par contre, toujours un truc. Par contre, le péché a des conséquences sur notre corps, sur notre corps physique. Par exemple, fumer peut conduire à développer un cancer des poumons. Ce n'est pas moi qui le dis, aujourd'hui, c'est écrit « fumez-tu » sur les paquets. Donc, punition de Dieu, c'est une conséquence connue d'un comportement. Si nous sommes appelés à prendre soin de notre corps, temple du Saint-Esprit, c'est encore une fois pour notre bien, ce n'est pas pour nous embêter ou nous mettre des interdits. Et donc, en ce sens, demander pardon, c'est important, car nos mauvais choix ont des conséquences. Mais avant tout, la maladie, elle reste la conséquence de la chute, de la désobéissance de l'homme et donc du péché originel d'Adam. On revient à la Genèse, là. Donc, on vit aujourd'hui dans un monde déchu dans lequel la souffrance, la maladie, la mort prédominent. Le diable, c'est le prince de ce monde et il se plaît à voir les gens souffrir. et il fait tout pour les garder éloignés de Jésus. Et tant que Christ ne sera pas revenu, ben le mal sera à l'œuvre. Donc on est sous cette réalité-là. Mais tout en gardant à l'esprit que la maladie n'est pas donc le plan de Dieu, ni une punition divine, on peut distinguer une maladie qui est donc la conséquence de l'action de l'homme, d'une maladie qui est d'origine spirituelle. Comme je l'ai dit avant, nos choix volontaires ou nos choix malencontreux peuvent avoir une maladie pour conséquence. Hein, si je mange, encore un autre exemple, si je mange du poulet cru, ben, il semblerait que je risque d'avoir des salmonelles. D'accord ? Il se pourrait, même qu'aujourd'hui nos poulets sont tellement beaux, tellement sains. Non. Mais voilà, il se pourrait bien que je développe quelque chose. Ok ? Est-ce que c'est la faute du diable ? C'est la faute du poulet. Ça, c'est facile, celle-là. Hein. Vous qui avez eu la grippe cet hiver, il y en a eu qui ont eu la grippe cet hiver, bien carabiné. Bon, est-ce que c'est une attaque spirituelle ou bien c'est la normalité des choses ? Une maladie grave comme le cancer peut être la conséquence de notre manière de vivre, que ce soit ce que l'on boit, ce que l'on mange, ce qu'on respire, sans que nous y soyons pour quelque chose. Donc on peut se demander, bien sûr, pourquoi moi ? Hein, si les choses m'arrivent, on peut se dire, pourquoi moi ? Pourquoi elle ? Pourquoi lui ? Ou pourquoi pas moi ? Mais nous sommes des êtres fragiles. Et nos corps ne réagissent pas de la même manière, tous de la même manière. Puis comme je l'ai dit, on vit dans ce monde où le mal gouverne. Donc il y a la maladie. Mais des pourquoi, il y en a plein d'autres. Hein. Pourquoi je suis né en Suisse, puis pas au Burkina Faso, ou en Inde, ou pourquoi je suis né dans un pays où on a tout ce qu'il faut, et puis pas dans le besoin. On a plein de ces pourquoi. On n'a pas toujours les réponses. Mais en tout cas, ce que je peux affirmer, c'est que se culpabiliser en pensant que c'est une faute, que je suis pécheur, et que c'est une punition, hein, que c'est ma faute, eh ben, ça, c'est pas juste. Par contre, demander pardon pour nos péchés qui auraient pu avoir des conséquences est important et nécessaire. Okay ? Est-ce que vous arrivez à faire la distinction ? D'accord ? Vous ne recevez pas la maladie, ce n'est pas une punition. Par contre, parfois, nos choix peuvent amener la maladie et on doit se repentir pour ça. Il peut aussi qu'on repère dans une fragilité qui se répète dans plusieurs générations. Alors on peut se dire, ben, le cancer, ben, voilà, c'est peut-être parce qu'on a respiré des mauvaises choses, je ne sais pas trop quoi. Mais quand on voit qu'il y a une répétition, on peut se dire que peut-être il y a un héritage là qu'il faut couper dans le nom de Jésus. Hein, l'ennemi a parfois mis une malédiction sur une lignée familiale. Et puis c'est vous qui avez rencontré Jésus, qui êtes sous sa protection, qui avez été adopté, qui avez été racheté, qui avez l'autorité pour réclamer la bénédiction du Seigneur sur vous et votre descendance. Donc il y a parfois des choses comme ça, on peut dire bah, c'est normal parce que ça arrive, voilà, il y a plein de cancers. Non, s'il y a une répétition, si vous dites, mais c'est génération, il faut que ça cesse, et là, il faut prendre aussi autorité. Mais une fois encore, nous sommes dans un monde où la maladie, la douleur, la souffrance sont présentes, et les chrétiens ne sont pas exemptés de ces réalités. Donc, faut-il prier pour ces maladies que l'on peut soigner ou qui vont passer au bout de quelques jours, comme la grippe ? Est-ce qu'il faut prier pour ça ? Oui. Bon, est-ce que vous le faites ? Oui. Moi, je réponds, en tout cas, on ne fait jamais faux en priant. Hein, on ne fait jamais faux en priant. Mais c'est certain que lorsque la vie est menacée, ou lorsque l'accomplissement du plan de Dieu est entravé, il faut se battre dans la prière, réclamer la guérison, même pour une maladie bénigne. D'accord ? Mais c'est clair qu'on peut faire une distinction peut-être entre la gravité, mais priez toujours. Mais lorsque la vie, parce que Dieu, il a la vie en réserve pour vous. Dieu, il veut votre vie. Dieu, il a un plan pour vous. Et quand la maladie vient entraver ça, vient empêcher l'action de Dieu, vient empêcher le plan, alors c'est d'autant plus important de tenir dans la prière. Effectivement, donc le diable peut aussi nous viser volontairement. Donc c'est ce que j'ai mis un peu à droite, des maladies infligées par Satan pour nous détruire, pour nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu, hein, pour nous faire reculer, pour nous faire perdre la foi, pour nous abattre. Donc on a une première décision à prendre dans ces cas-là. Est-ce que je vais me laisser faire ? Est-ce que je vais me laisser faire ? Bien sûr que non. Hein. Mais la meilleure réponse guérison ou non, d'accord ? Guérison ou non, c'est celle de rester ferme dans la foi, de ne pas laisser le doute entrer et de continuer à élever et confesser le nom de Jésus. L'intervention de Dieu ne nous appartient pas. Le quand et le comment, c'est de son ressort. Mais moi, je peux dire, moi, je continue à m'attacher à lui. Je m'attends à lui. Il peut guérir instantanément, il peut remettre le diable à sa place bien sous nos pieds, direct, il peut se glorifier, mais il peut aussi attendre et développer en nous une persévérance. Il peut développer en nous l'intimité, cette confiance qui va nous permettre de le voir agir en nous donnant la force de combattre jour après jour. Donc notre manière de vivre l'épreuve, elle est aussi un témoignage qui va glorifier Dieu, afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. D'accord ? Donc il y a une démonstration de puissance aussi dans ma manière de vivre l'épreuve et la maladie. Donc une bonne théologie, important de remettre les choses bien en perspective. Deuxième obstacle, c'est la méconnaissance de Christ. Et si on continue dans notre texte, en Jean 9, on lit la suite depuis le verset 6. « Après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, donc il signifie envoyer. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, non, mais il lui ressemble. Et puis au verset 18, un peu plus loin, les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Donc en fait, les Juifs, les pharisiens dans ce texte, ils vont faire une double enquête, hein, ils vont faire venir ses parents pour lui demander « Eh, c'est bien votre fils, celui-là » hein, tellement il y a de l'incrédulité, en fait. Et les gens ne croient pas donc, que c'est vrai, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas croire parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne peuvent pas concevoir qu'il soit le Fils de Dieu et qu'il soit alors capable de guérir. Ils ne peuvent pas croire qu'il est en train de prendre place. Ce n'est pas possible. Et donc, le manque de connaissance conduit à l'incrédulité. Pour connaître quelqu'un, il faut être en relation, évidemment. Et Jésus était le pro pour partager les repas avec tant de personnes différentes. La relation permet la confiance. La confiance, c'est la foi. Et bien des personnes qui ont été guéries par Jésus ne le connaissaient pas très bien, mais toutes l'avaient entendu, toutes l'avaient écouté. Souvenez-vous un peu de la dernière fois, des foules là, qu'on avait vues dans l'évangile de Luc, il y avait cette dimension de foi au travers de leurs demandes, parfois un peu folle. Hein. « Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Hein, » Donc dans ce « dis un seul mot », il y avait déjà cette notion de foi, de persévérance. Comme cette femme qui vient toucher, qui crée ce chemin, qui vient toucher le manteau de Jésus. Ou dans leur compréhension, dès qu'il y était, de qui il est, hein, au travers du cri de Bartimée qui dit « Jésus, hein, fils de David hein, !» qui crie comme ça au bord du chemin. Donc derrière leur cri, derrière leur persévérance, il y avait déjà cette notion de foi. Et la foi précède la guérison. Ce verset de Jean 11, 40 qui dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si tu crois. La foi précède la guérison. Alors, on reproche souvent le manque de foi à ceux qui ne sont pas guéris. Évidemment que si l'on ne croit pas que Jésus peut guérir, on ne va même pas lui demander. On est d'accord. Mais notre incrédulité peut être plus fine que cela. En fait, c'est comme des petites fissures dans notre assiette. Hein, en vacances, on avait un pot de d'eau qui était fissurée, puis ça ne se voyait pas, puis tu mets de l'eau, puis d'un coup tu vois que ça perd. Hein, ça peut être discret, mais c'est des petites fissures qui sont là, à l'intérieur, puis qui nous disent peut-être « Ah mais, il peut guérir les autres, mais pas moi. » Donc il y a une mesure de foi, il peut guérir, mais pas moi. Vous voyez la fissure ?« Ouais, mais ma situation, c'est trop gros. » Ou bien à l'inverse, bah, « C'est pas assez important pour qu'il s'y intéresse. » Ou « Ah, mais moi, je suis déjà âgé, alors à quoi bon ?» Ou « Ça fait 20 ans que ça dure, pourquoi il le ferait maintenant ?» Hein ? Donc, on tombe dans une certaine incrédulité qui va se mêler avec à du fatalisme, finalement. Ben, c'est comme ça. Je vous raconte une petite histoire que j'ai lue dans un livre de Smith Wigglesworth. C'est un homme qui a vécu au siècle dernier, qui a eu un ministère marqué par des signes et des miracles. Et puis, il raconte qu'un jour, il se trouvait à Belfast et qu'un pasteur est venu à sa rencontre et puis il lui dit « Ah, mon frère, j'ai un gros problème, j'ai une dame âgée dans mon église qui avait un beau ministère, hein. Elle apportait quelque chose dans les temps de prière et tout, puis malheureusement, elle s'est fracturée la jambe, elle s'est cassée la jambe, et après 5 mois de plâtre, les médecins ont dit que, en fait, ses os ne se sont pas ressoudés et qu'ils ne se ressoudraient pas. Et puis elle est retombée, donc maintenant elle a une double fracture, et puis ben voilà, tout ce qu'ils disent, c'est qu'elle ben, n'a plus les nutriments nécessaires dans ses os pour que ça se recolle. Ils ne peuvent rien faire pour elle, elle est âgée, donc il faut qu'elle reste dans son lit patiemment en attendant la fin. Bon, alors, il va vers elle, il va la visiter, et puis il lui pose cette question. Pouvez-vous croire Dieu ? J'aime bien, pouvez-vous croire Dieu ? Pas croire en Dieu, pouvez-vous croire Dieu ? Et puis elle dit, oui, je sais qu'il n'y a aucune puissance sur la terre qui pourra faire que les os de ma jambe se remettent en place, mais je sais que rien n'est impossible à Dieu. Puis il lui demande encore, croyez-vous qu'il va venir à votre rencontre maintenant ? Elle répondit, oui, je le crois. Puis là, le mari de cette dame qui était dans la même pièce, qui était là, lui, il était cloué sur sa chaise depuis 4 ans, il ne pouvait plus marcher. Et puis quand il entend ça, lui, il crie, moi, je ne le crois pas. Je ne le croirai pas et vous ne me ferez pas croire ça. Imaginez la scène quand même. Tu essaies de, voilà, d'encourager la foi, tu veux prier pour la personne, hein, puis tu as l'autre qui dit, moi, je ne crois pas. Puis il répond simplement, d'accord. Puis là, il impose les mains à la dame, et au nom de Jésus, et puis elle est guérie, immédiatement. Alors le mari crie, « Faites-moi marcher, faites-moi marcher !» Et là, il lui répond, « Vieux pécheur, repentez-vous. Hein, » c'est le siècle passé, hein, mais j'imagine la scène. « Vieux pécheur, va, repentez-vous. » L'homme répondit, « Seigneur, tu sais que je crois. Hein, » Lui qui ne voulait pas croire, il a dit, « Vous ne me ferez pas croire. » D'un coup, il confesse, « Seigneur, tu sais que je crois. » Il lui a alors imposé les mains et puis il a pu remarcher pour la première fois après 4 ans. Extraordinaire. Bon, ce n'est pas il y a 2000 ans, c'est le siècle passé, mais Dieu agit encore aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Ne laisse aucune place à l'incrédulité. Peut-être repens-toi. Repens-toi de ton incrédulité. Vieux pécheur, repens-toi. Hein ? Mais oui, repentons-nous de notre incrédulité. Attends-toi à Jésus qui t'aime. Continue à souper avec lui. Continue à prendre des temps tête à tête avec ton Seigneur. Parce que je crois vraiment que c'est dans cette relation simple entre un petit enfant et son papa bienveillant que la guérison prend place. Crois ce que Jésus te dit. Crois-le. Suis-le. Demande-lui. Des fois, dans ce manque de connaissances, on a l'impression que la guérison, c'est quelque chose de tellement spécial et tellement d'extérieur. Il faut absolument le ministère de guérison. Il faut prier justement de telle manière, en disant ces mots et pas d'autres. Et des fois, on met plus d'espoir en la personne qui va prier qu'en Dieu lui-même. La guérison se vit dans la relation. Que te dit-il ? As-tu demandé à quelqu'un de prier pour toi ou as-tu demandé à Jésus, rends-moi pur, guéris-moi. Ou peut-être que tu n'as pas encore entendu lorsqu'il t'a dit, qu'aimerais-tu que je fasse pour toi ? Crois-tu qu'il vient à ta rencontre ce matin ? Et notre troisième obstacle, c'est l'accoutumance. Alors là, je m'adresse aux parents. Est-ce qu'il vous est arrivé par hasard un lundi matin d'avoir un enfant qui se sent très mal, qui est très malade, une fièvre impressionnante, soudaine, oui. Ça vous est arrivé ? J'imagine que oui. Voilà, il y en a quand même qui lève la main. Quand on est enfant, être malade, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire louper l'école d'abord. Hein. Et puis ça peut être cool. Mais c'est aussi avoir un parent qui prend soin de nous. tout spécialement. Puis quand on a une fratrie comme la nôtre, eh ben, de temps en temps, avoir un petit moment où papa ou maman, il prend soin de nous d'une manière toute spéciale, là, c'est agréable. Et puis, il y a des petits avantages. Je ne sais pas si c'est comme ça dans vos familles. En tout cas, chez nous, quand on est malade, ben, on nous apporte à boire un thé ou un chocolat ou quelque chose dans notre lit, hein, quand même. Dans notre lit, au lit. On peut même déjeuner au lit. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. On peut rester en pyjama toute la journée. Ça, c'est cool. Quoique des fois, les trainings ressemblent à des pyjamas. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, toute la famille prend des nouvelles. Hein, quand on rentre, les autres rentrent de l'école, il va comment? Comment ça se passe? Puis peut-être qu'on peut même regarder un truc à la télé. Alors nous, on a un peu banni ça, parce que sinon, ils vont vraiment être malades souvent. Hein, mais enfin, voilà, ça peut être sympa. Alors, évidemment que dans ces conditions-là, si je dis à mon fils malade, « Mon chéri, papa va prier pour toi et hop, tu pourras aller à l'école. » Je vois assez rapidement à son visage qu'il n'est pas très intéressé. Il n'a pas très envie d'être guéri. Alors, c'est un petit parallèle gentil pour dire que l'accoutumance, en fait, c'est le fait de se familiariser, de s'habituer à notre maladie. Mais en fait, dans cette accoutumance, certaines personnes peuvent réussir, même si elles souffrent, même si c'est difficile, même si elles sont vraiment malades, hein, parce que nos enfants, des fois, ils sont tout juste malades, puis un petit peu de fièvre. Mais les personnes peuvent réussir à tirer quelque chose, tirer un bénéfice de leur état. Ça arrive. Et en fait, ils vont commencer à exister un peu au travers de leur maladie. Ça va même devenir leur identité. Alors j'ai mis cette image-là comme si finalement d'être masqué, bon ça vous rappelle peut-être le Covid ou je ne sais pas, certains « oh !» Comme si hein, ils pouvaient vivre comme ça, puis finalement ça devient normal. Hein, on est à l'aise, oh, tout roule, c'est tout à fait normal. Donc évidemment que la guérison, lorsqu'on offre la guérison, Jésus offre la guérison, ça va amener un changement. Et puis on sait toujours que le changement fait peur. Imaginez les changements pour cet aveugle de naissance dont on a lu l'histoire tout à l'heure. Hein, il voit, ça c'est extraordinaire, mais il devra tout réapprendre. Il devra tout apprendre. Il devra apprendre à lire, il n'a jamais lu. Il n'a aucune idée des lettres, il n'a aucune idée même des couleurs. On peut lui dire vert, il n'a jamais vu ce que c'est du vert. Hein, donc il doit tout apprendre. Il doit apprendre un métier, il doit apprendre à vivre avec les autres. Lui qui était exclu, qui était mis de côté. Et puis il doit faire un chemin intérieur de pardon parce qu'il a été rejeté. Toutes ces années. Ce n'est pas si simple d'être guéri. Vous voyez les implications. Et dans ce texte, d'ailleurs, on remarque une belle progression de cet aveugle, parce qu'au départ, au verset 12, on lui demande « Où est Jésus ?» et il répond « Je ne sais pas hein, », parce que les gens veulent voir « C'est qui t'a guéri ?»« Il est où ?»« Je ne sais pas. » Au verset 17, les pharisiens vont lui demander « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Puis il va répondre « C'est un prophète. » Et puis les pharisiens le rappellent après avoir parlé à ses parents, hein, comme je l'ai expliqué, et il va se définir comme disciple. Il va dire qu'il est disciple de Jésus. Et il va finir par leur dire au verset 33, « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Et puis là, lorsqu'il commence à dire ça aux pharisiens, aux maîtres de la loi, à ceux qui connaissent, hein, eux vont, plein d'orgueil, vont le chasser, puis vont dire, « Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes. » Hein, puis ils vont le mettre dehors, donc tais-toi. Voilà. Et puis là, au verset 35 encore, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Accepter l'offre de Jésus, c'est lâcher ce qui est devenu familier pour nous. C'est lâcher notre béquille, peut-être, ce qu'on connaît. Finalement, on peut même trouver une certaine sécurité dans notre maladie. Et puis cette maladie peut nous définir. Mais comme pour cet homme, c'est rencontrer Jésus en profondeur. Dans les évangiles, Jésus pose plusieurs fois la question, « Que veux-tu ? Que veux-tu ?» Il veut s'assurer que tu veuilles le changement. Et en plus, il ne fait pas au-delà de ce que tu lui demandes. Parce qu'en général, on a la foi pour ce qu'on va lui demander, mais pas tellement au-delà. Hein, si tu demandes d'avoir moins mal, Ce n'est pas la même chose de demander que de demander d'être guéri. Vous voyez ? Des fois, on dit, Seigneur, enlève-moi les douleurs. En fait, c'est juste parce qu'on a peut-être peur que la demande suivante sera un peu trop, quoi. Quand même, être guéri, je ne sais pas si j'ose. Peut-être moins de douleurs, ça passe. Hein ? Mais je vous pose la question ce matin. Quelle place a la maladie dans ta vie ? Est-ce devenu ta maladie ? Est-ce que c'est devenu ta maladie ? Est-ce que tu peux t'imaginer sans cette maladie ? Quelles sont les peurs qui peuvent être liées à ce changement dans ta vie ? Je laisse un peu ces questions-là résonner. Puis on va aller à notre quatrième obstacle. Je suis presque au bout, c'est les déceptions passées. Je pense que j'ai gardé le meilleur pour la fin. La déception, c'est bien sûr lié à une attente non répondue. Donc si vous n'avez pas été guéri lorsqu'on a prié pour vous, cela vous aura immanquablement découragé, peut-être ça aura semé le doute. Est-ce que vraiment il guérit ? M'aime-t-il ? La prière ne fonctionne pas, en tout cas pas avec moi. Donc c'est pour ça que toutes ces questions-là, toutes ces résonances, il faut avoir une bonne théologie. Parce que si on a une bonne théologie, déjà ça change notre réalité, ça change notre vécu. Si on a l'impression ou s'il ne nous exauce pas tout de suite, on comprend autrement. Mais en tout cas, c'est tout ce que l'ennemi veut. Il veut nous décourager, nous laisser croire que ça ne sert à rien de demander. Et puis, insidieusement, la déception dépose aussi du ressentiment envers Dieu. Et des fois, c'est vraiment insidieux. Mais en fait, il y a quand même une petite colère qui peut être là. Il ne m'a pas guéri. Je ne le lui dis pas, mais quand même, je lui en veux un petit peu. La déception, donc, c'est un obstacle immense, car on va préférer ne plus rien demander que de risquer d'être déçu à nouveau. La déception, c'est aussi un obstacle pour ceux qui prient pour d'autres. Si tu n'as pas vu Dieu agir, alors tu peux être déçu parce que tu as l'impression que ta prière n'a pas eu d'effet. Tu peux même te sentir mal à l'aise face à la personne qui avait cette attente. Tu peux te sentir nul, tu peux te dire que tu n'es pas assez spirituel. Et puis tu auras peut-être dû jeûner, ou ne sais-je. Donc la déception, c'est une stratégie de l'ennemi. Ne le laissez pas vous tromper, mais persévérez avec cette foi qui dit que rien n'est impossible à Dieu. En fait, je n'ai pas vraiment d'exemple biblique où on a des personnes qui racontent leur déception. C'est difficile, non ? Personne ne semble ne pas avoir été guéri. On dit qu'il a renvoyé tout le monde, ils étaient tous guéris. Mais on a tout de même cette parole de Paul qui est bien connue en Corinthiens 12 qui dit « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc Paul semblait, en tout cas il a prié, en tout cas il a demandé, il a insisté, mais Paul semblait avoir trouvé le sens à son écharpe dans la chair et puis une réponse dans le non-exaucement de sa demande. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors comme je l'ai dit dans mon premier point, le Seigneur veut aussi se glorifier dans la manière dont tu vis ton épreuve. Ne sois pas déçu. Il s'occupe et il s'est occupé, il s'occupera encore de ton cœur. C'est ton cœur qui l'intéresse. Il est avec toi dans l'épreuve, il t'aime, il t'a sauvé, il est souverain, il peut encore agir en toi et avec toi dans l'épreuve. Quelqu'un m'a fait remarquer qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui justifient le fait qu'il y ait peu de guérison en disant que c'est parce que nous avons ici des hôpitaux, des médicaments, etc. Donc ça peut justifier le fait qu'on ait moins de guérison. En parenthèse, je redis que c'est bienvenu vos questions dans cette série ou vos témoignages. Vous pouvez seulement les faire. Donc là, c'est voilà, quelqu'un qui m'a écrit ça. Et j'ai envie de dire oui, effectivement, ça joue un rôle. Parce que bien souvent, on met notre sécurité dans notre système de santé au lieu de mettre notre sécurité en Dieu. C'est vrai, parfois, on va courir vite prendre quelque chose, un médic, avant même de lui demander ce qu'il en pense, ou on va courir aux urgences avant même d'avoir prié. Mais écoutez-moi bien, il n'y a rien de mal à prendre des médicaments. Okay, y a rien de mal à prendre des médicaments, vous qui en avez besoin. Il faut aller aux urgences si vous êtes cassé une jambe, si vous avez fait un accident. C'est un cadeau, c'est une bénédiction d'être pris en charge comme nous le sommes dans notre pays. D'accord ? Donc, n'opposons pas les soins médicaux à Dieu. Il ne faut pas opposer ces choses. Dieu s'en sert, Dieu les utilise. On peut être reconnaissant de ce que nous avons ici. Mais n'arrêtez pas de prier pour autant. N'arrêtez pas de prier. Ayez foi en Dieu. Et dans cette relation que vous avez avec lui, demandez-lui, comment veux-tu agir ? Comment veux-tu agir dans cette situation ? Il y a des fois des urgences où effectivement il faut vite y aller, puis on sent intérieurement, on prie, et puis on sent qu'il y a urgence, il faut y aller maintenant. Et puis il y a d'autres situations où je me souviens avec nos enfants, où on a eu le temps de prendre le temps de prier, on s'est mis vers l'enfant, etc. Puis il dit, ok Seigneur, on en est où là ? C'est grave ? Il faut aller à l'hôpital ou il ne faut pas aller à l'hôpital ? Comment tu veux qu'on agisse ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et il nous donne la paix, il nous donne la conviction. Il peut nous dire, ok, cette paix qui dit, voilà, reste tranquille, je m'en occupe. Ou bien au contraire, vas-y. Hein, il peut aussi nous retourner la question, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Mais oui, probablement que c'est en quelque sorte un obstacle à notre foi, parce qu'on ne s'attend pas à l'action de Dieu de la même intensité que c'est le cas peut-être à Noépé ou à beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres parties du monde, hein, où finalement ils n'ont pas ce qu'on a, et puis c'est la vie ou la mort. C'est Dieu intervient ou la personne elle meurt, hein, même pour des choses qui pour nous sont bénignes. Donc c'est clair que voilà, ça peut être un obstacle. Ce qui est sûr aussi, c'est que si on ne prie plus pour les petites choses, est-ce qu'on va savoir prier pour les grandes ? La foi, elle s'exerce. Et sachez qu'il y a aussi des situations encore dans notre pays que la médecine déclare incurables. Il y a aussi ici des gens, des fois même plus qu'ailleurs, qui se donnent la mort tant ils souffrent intérieurement. Il y a ici des gens dépendants de différentes substances qui n'en sortent pas malgré les meilleures cures. Donc, il y a besoin de prière. Mais saurons-nous prier pour ces choses si nous ne prions pas pour les petites ? Ne laissons pas ces obstacles nous empêcher, en tout cas, de goûter à la gloire de Dieu, de voir l'œuvre parfaitement accomplie par Christ à la croix. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'invite les musiciens à revenir. Et ce matin, j'aimerais simplement prendre le temps encore de faire un appel. Il ne reste plus que ça dans ce culte, dans ce moment, donc on veut bien le vivre. Je l'ai mis ainsi. Ce matin, il t'appelle simplement à enlever toutes les barrières qui pourraient t'empêcher de recevoir ce qu'il a pour toi. On aimerait faire tomber ces barrières de mauvaise théologie. Si ça a résonné, tu dis, en fait, c'est vrai, des fois, je sens que je me sens encore coupable. J'ai l'impression que ce qui m'arrive, c'est ma faute. C'est pour toi ce matin. Si tu as l'impression que cette incrédulité est là comme une racine que tu n'arrives pas à enlever, il y a des fissures, c'est pour toi. Si aujourd'hui tu es dans cette accoutumance où finalement tu fais avec, tu t'es habitué, puis tu as laissé tomber finalement de toute façon depuis le temps, ça fait partie de moi, c'est ma maladie, c'est pour toi ce matin. Et puis si tu as été déçu dans le passé, si tu as arrêté de croire, de dire c'est encore possible parce que tu as été déçu, puis tu as peur d'être encore déçu, ce matin on veut briser cela. On veut demander qu'il vienne guérir ton cœur, qu'il vienne te redonner foi et courage. Que tu puisses laisser à nouveau la possibilité à Dieu d'agir dans ta vie. Alors, si ça résonne pour quelques persones, alors qu'on regarde à Jésus, on se tourne vers Jésus, je vais vous inviter à vous lever et même à vous avancer pour qu'on puisse prier pour vous. Il y a des équipiers qui sont prêts pour cela, qui ont été désignés pour ça. Ils vont se tenir aussi devant moi. Et puis, on va juste prendre ce petit temps. C'est l'occasion. Aujourd'hui, on ne prie pas pour la guérison, on prie pour les obstacles qui vous empêchent d'entrer dans cette guérison, dans ce cadeau. Alléluia, le Saint-Esprit agit. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Merci Seigneur pour ton appel. Merci Seigneur pour qui tu es. Saint-Esprit, tu es le Tout-Puissant et tu es le bienvenu dans ce temps. Merci de faire tomber ces obstacles dans la vie des uns et des autres. Alléluia Jésus.